Bonjour et bienvenue dans Et si c'était vrai? Et si c'était vrai, un podcast sur la magie de Dominique Duvivier, mais je pense que au final on parle pas que de la magie de Dominique Duvivier, on parle de la magie dans son ensemble parce qu'on aime bien toutes les magies. Mais là, on parle avec Dominique, qui est à côté de moi, et qui a l'air en pleine forme.
Mais oui, il est vraiment très en forme.
Alors, on en est tous contents, on est tous ravis. Dominique, j'aimerais pa vous parler de références aujourd'hui. Alors évidemment, si je cite Ricky Jay, si je cite Brother John Hammond, donc ce sont Goshman, ce sont, on le sait, des noms qui vous évoquent quelque chose. Il y a quelques numéros, on a parlé de cordes et on peut citer Pavel par exemple. Juste un petit hommage à Pavel en passant, il nous a quitté évidemment beaucoup trop tôt
Oui,
et ça a été
c'était quelqu'un de vraiment gentil. Puis, il avait des idées géniales, vraiment.
et en termes de cordes, je pense qu'il a, ouais, il a vraiment
Ah
été
ouais.
Il était vraiment très très loin dans le principe et il a réussi à créer des choses d'une poésie totale dans l'univers magique. Donc voilà, c'est moins votre référence néanmoins, Pavel.
Oui. Oui, mais ça veut pas parce que c'est pas une référence pour moi que c'est pas une référence. Et tu vois, c'est ça que je trouve génial dans la magie aussi. C'est un peu comme si on était en train de viser sur la littérature. Ben moi, je vais plus être Albert Cohen ou je ne sais qui. Et qu'est-ce que je vais dire finalement de Dostoïevski ou de je ne sais qui d'autre que j'ai lu ou pas lu, ou qui m'ont intéressé ou pas intéressé, ça n'empêche pas que c'est des sommités.
Absolument.
Parce que là, on est. C'est pour ça que j'ai fait exprès de prendre comme idée la littérature. Parce que la littérature, c'est peut-être un des premiers arts. Tu vois, c'est un puits sans fond aussi, la littérature. Et on ne peut pas parler de la littérature quelque part. On peut parler. C'est pour ça que je pense que tu as raison de dire ma magie. Et en même temps, on parle de magie. On parle de magie, mais pas de toutes les magies, même si on essaie d'en parler. Parce que Pavel, pour reprendre ce que tu viens de dire, oui, c'était un mec génial, comme Ali Bongo. Mais est-ce que j'ai fait vraiment des tours de Pavel ou d'Ali Bongo? Oui, je pense, mais je suis même pas sûr. Et c'est pas parce que j'en ai pas fait que ça veut dire que c'est pas bien ou que c'est pas intéressant. Parce que, comme dans la littérature, il y a tellement de choses, il y a tellement une idée, il y a tellement d'intelligence dans l'écriture comme dans la magie, il y a tellement d'auteurs qui ont imaginé des choses folles que, oui, on peut parler de magie parce qu'on aime ça, toi comme moi. Mais c'est très difficile d'être exhaustif. Alors, souvent, on n'est pas exhaustif parce que on est fâché ou on déteste certaines magies ou surtout certains magiciens. Moi, c'est pas tant mon cas. Mais comme la magie et comme la littérature, je pense, tu peux pas faire toutes les magies. Tu peux pas être dans toutes les obédiences, même pour le cinéma, c'est pareil. Tous les arts qui sont profonds, et je pense que la magie, même si elle est beaucoup plus méconnue que la littérature ou le cinéma, c'est un puits sans fond. Et on peut presque, j'allais presque dire, bah finalement, Pavel, il peut se suffire à lui-même, comme certains auteurs dans la littérature ou dans le cinéma ou dans d'autres arts se suffisent à eux-mêmes, parce que je pense que quand quelqu'un a vraiment été profond dans sa magie, même s'il n'a fait que des cordes ou que des cartes ou que des je ne sais quoi, bah il est universel quelque part, tu vois.
Absolument.
Je crois.
Donc revenons sur les références. Donc pour, j'allais dire, donc Goshman, Ricky Jay, etc. À la limite, bon, si on a envie de parler de Dominique Duvivier et de ses références, ça, quelque part, c'est trop facile. Donc j'aimerais savoir si vous avez d'autres références de magiciens dont on parle peut-être un petit peu moins. Et également, pourquoi vous vous êtes plutôt accroché à une plutôt qu'à un autre. Un exemple très concret pour clarifier ma pensée, c'est vous vous êtes accroché à Gauchemann parce que pour une raison X ou Y, il vous a inspiré, mais moins à Slidini par exemple, et qui était dans une espèce de magie pas similaire, mais où l'univers du lapping, l'univers où tout se passe devant les yeux des spectateurs, le fait de cacher, par exemple, sous une salière, ou de laper quelque chose, il y a une espèce de similitude dans la famille. Pourquoi l'un et pourquoi pas l'autre?
Ah, c'est marrant, tu vois, j'ai envie de te dire, enfin, envie de te répondre un peu avec un parallèle. Très souvent, de mon temps, parce que maintenant je suis obligé de dire de mon temps, ceux qui aimaient les Beatles ne pouvaient pas aimer les Rolling Stones.
Oui.
Et réciproquement. Pourquoi? J'en sais rien. Mais quand t'es Beatles, t'es pas Rolling Stone, quoi. Parce qu'il y avait un côté. Alors les deux étaient rock'n'roll, faisaient du rock'n'roll. Mais à mon avis, les Beatles ont donné leur lettre de noblesse à la pop musique, ou ont même créé une partie ou la totalité de la pop musique, alors que les Rolling Stones ont essayé enfin, moi, non, parce que je suis un Beatlesien, hein, un Rolling Stone, je sais pas comment on dit, lui, il dira pareil contre. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours des guerres, hein, d'ailleurs. Et c'est terrible. Bon, moi, j'ai pas envie de faire de guerre, mais n'empêche que. Il n'y a rien à faire, quoi. Quand t'es... Moi, j'ai bien aimé les Rolling Stones, la période Aftermath. Moi, je dis Matt, c'est sûrement pas comme ça se prononce, mais la période Satisfaction et d'autres, notamment sur cet album-là, qui était génial. Moi, pour moi, ils ont été dans le sillage des Beatles, ils ont copié les Beatles. Après, ils ont fait des trucs à eux et ils ont perpétré de la musique rock. Les Beatles ont plutôt perpétré la musique pop.
Oui.
Moi, je préférais cette sophistication des Beatles, le côté justement studio, on travaille bien ces trucs, alors que les Rolling Stones c'était plutôt des bouchers, tu vois, de ce point de vue, tout en faisant des trucs merveilleux. Bon, et si on fait maintenant le parallèle, puisque toi c'était dans le sens inverse, tu voulais pas le parallèle avec les Rolling Stones, mais plutôt Slidini et Gauchemann, bah pour moi c'est un peu pareil quand même. Quand tu es slidiniesque, c'est difficile que tu sois gauchemaïste, tu vois. Parce qu'il y en a un, il mange mal, tu vois, il fait des tâches quand même. L'autre, il est sophistiqué, tu vois. Il est propre, il est maniéré presque, tu vois. Alors cela dit, Slidini, c'est une sommité. Moi, j'ai eu la chance de connaître et de rencontrer pas mal les deux. Mais j'aimais pas moi Slidini parce que j'aimais Gauchemann, comme les Beatles et les Rolling Stones. J'aimais pas ce côté ampoulé de Slidini, ce côté sophistiqué, je marque mes temps, temps fort, temps faible. Il a codifié ça, il a fait des livres merveilleux, et c'est grâce à lui si on a pu codifier justement le détournement, le timing. Oui, le détournement d'attention, je voulais dire. Mais Gauchemann, c'est détournement d'attention, c'est les temps forts, les temps faibles, pareil, mais c'est pas appuyé pareil. C'est pas joué pareil. De temps en temps, il fait un truc comme ça, tu sais, où il va mettre une pièce, il va la regarder, puis poum, il fait un lapping. Mais c'est presque singé Slidini, ce qu'il faisait. En même temps, il vivait à la même époque. Donc après, qui a commencé? C'est l'œuf ou la poule, tu vois. Ça, c'est compliqué. Un peu moins compliqué pour les Beatles et Rolling Stones, parce que là, on sait. Plus difficile pour Slidini et Gauchemann qui ont commencé en même temps, qui ont suivi des chemins différents, mais quand même parallèles, parce qu'ils font tous, pas tous, tous les deux, de choses à base de la pigne, l'un comme l'autre.
Oui.
Évidemment que Slanini a fait beaucoup plus de la pigne que Goshman, mais ils en ont fait quand même tous les deux. Beaucoup de choses de Goshman est emprunt de ça. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question.
Et ça répond à ma question, et je vais rebondir là-dessus. Mais avant, pour vous, le fait de mettre une pièce sous une salière, par exemple, c'est une espèce de technique de lapping où vous... c'est complètement différent.
Je crois que c'est complètement différent, sauf que moi, ma vision, quand j'ai vu Goshman faire ça, ma retranscription, ma créativité, ce qui a aiguisé mon sens créatif, s'est traduit par les lappings, le running gag. Moi, mon écriture running gag, elle vient complètement des salières de Goshman,
d'accord.
Pas du tout de Slanini.
D'accord, d'accord.
D'ailleurs, quand j'ai fait venir chez moi Albert Goshman, il a passé une après-midi, il a déjeuné avec nous, chez moi, du temps où j'avais notre maison à rue Molière. Il a passé le midi, l'après-midi, et un bout de la soirée, après je l'ai ramené chez lui, il n'habitait pas à Paris, mais il était un pied-à-terre là. Et je l'ai fait venir à un moment donné dans mon bureau, et je lui ai dit, avec un traducteur, voilà, grâce à vous, j'ai imaginé, je vais vous montrer mon interprétation de vos salières, et je lui ai fait mon running gag, qu'il a apprécié, par politesse ou pas, mais n'empêche qu'il avait apprécié cette conception. Mais pour moi, c'était vraiment ça, c'était mon interprétation de ces salières, le lapping, les running gags.
Pour ensuite arriver à... faire son hommage complet en reprenant
mais
et en
ça,
adaptant son numéro.
Encore une fois, il y en a aussi plein qui m'ont reproché ça, parce que c'est pas un hommage, c'est du pillage ou machin, on dit ce qu'on veut. Hein. Moi, si j'ai fait ça, ça part d'un truc très simple. Même si j'ai travaillé dans mon coin des éléments de Goshman, j'ai jamais eu l'intention de faire sa routine modifiée par moi en spectacle. C'est venu d'une chose très simple. C'est que très souvent, quand des gens m'interviewent, me demandent mon avis, interview pas forcément formel comme on fait là, mais les gens, quand ils te parlent, ils t'interviewent. Hein. Mais c'est arrivé des quantités de fois, les gens disent, mais alors, quelles sont vos influences, quelles ont été, nanana, maintenant on commence à le savoir plus parce que j'ai un blog, mais avant d'avoir un blog, les gens me demandaient parce qu'ils ne savaient pas.
Bien sûr.
Et je disais, toujours je disais Caps, Goshman, toujours les 4-5 noms, Ricky Jay, machin truc, toujours les mêmes, hein, évidemment. Et quand je disais Goshman, quand je disais Ricky Jay, les gens avaient entendu quand même parler, mais quand je disais Goshman, c'était pas vraiment évident, quoi.
Ouais.
Et vraiment, ça m'a fait chier, ça. Parce que Goshman, c'était une sommité. Je trouve que c'était, et c'est toujours, très moderne. Et pourtant, parce qu'il est mort, ça n'existe plus. Et donc, ça m'a tellement fait chier qu'un jour, j'ai pris le mort aux dents et j'ai décidé de refaire sa routine, évidemment à ma façon, mais quand même en respectant son timing et quelques effets type qu'il faisait, pour montrer, du moins de mon vivant, qu'il est toujours vivant.
Ouais.
Et c'est comme ça que j'ai monté ce truc, et d'ailleurs il y a plus d'un grand magicien qui m'a dissuadé de le faire, en disant, alors ils m'ont pas dissuadé parce que c'était un pillage dommage, hein, pas du tout, c'était... Attends, mais tu vas te ramasser une gamelle. Oui. Tu vas faire un Goshman. Déjà, Goshman, on touche pas à Goshman parce que c'est beaucoup trop difficile. Et la deuxième chose, mais dans la foulée, qui était aussi forte que la première, c'était, mais c'est démodé. Le coup, tu mets une pièce sous une saillère, les gens, ils vont le voir tout de suite. C'est pas bon. C'est sûr que c'est pas bon. Et moi, je vous l'aurais dit, à ces deux, trois-là, qui sont des magiciens importants, eh ben moi, je suis sûr que vous vous gourrez. C'est super bon. Moi, je suis sûr que c'est super bon. Et j'ai refait ma routine. Enfin, d'abord, j'ai commencé par faire la routine de Gauchemann, parce qu'il m'avait permis, et je répète, on n'était pas amis intimes, enfin, on avait été copains, il m'avait permis de le filmer du temps où il était passé à l'Olympia pour faire une conférence. Donc, il m'avait donné la permission de le filmer. Et donc, j'ai travaillé en regardant ce film. Je me suis fait une vidéo de moi et j'ai diffusé en même temps sur un autre écran lui, et je peux te dire, après avoir travaillé des mois hein, comme un forcené, je suis arrivé à faire exactement comme lui. Sauf que en regardant les deux interprétations, j'ai vu que je faisais comme lui, mais j'ai vu que ça n'allait pas. C'était pas bon. Parce que là, dans cette mouture-là, je m'étais borné à faire comme lui. Donc, de deux choses l'une, ou je foutais ça à la poubelle, ou je repensais les choses tout en faisant ce que Gauchemann faisait, mais à ma façon, avec mes propres effets, où j'ai amené une côtelette, et j'ai amené du sauciflard, et j'ai amené des saucisses. Et puis j'ai fait plein de trucs, j'ai vraiment créé beaucoup de choses là-dedans. Donc quand après on ose dire que c'est du pillage, que c'est un hommage déguisé pour simplement voler, machin, c'est complètement faux. Si tu vois Gauchemann et si tu me vois, c'est pas du tout pareil. C'est pareil, parce que j'ai respecté sa façon du timing. Parce que justement, moi j'ai toujours fait un hommage à Gauchemann. Moi je suis pas comme beaucoup de pas du tout citer mes sources et de faire quand même en sorte qu'on croit que c'est finalement moi qui ai trouvé. Non, je fais vraiment Gauchemann, je fais un hommage à Gauchemann, je parle avant en essayant de faire revivre aux gens ce qui s'est passé dans le passé, enfin bon, tout ça, ça a été publié, hein. Et après je fais mon truc avec mon interprétation, et je pense que, d'ailleurs même son fils Gauchemann m'a permis de le faire, et même de faire ma mallette qu'on a vendue à 30 exemplaires seulement, comme une transmission, parce que pour moi c'est ça quoi, tu vois, c'est que grâce à ça, je pense que pendant encore au moins une petite centaine d'années, Gauchemann, il continuera de vivre, ouais, du coup, ouais, tu vois. Absolument. Peut-être que Duvivier vivra un tout petit poil de cul aussi à travers ça, mais je ne l'ai pas fait pour ça, moi. Je l'ai fait pour que Gauchemann, étant mort et enterré, c'était le cas de le dire, mine de rien, on n'a jamais autant parlé de Gauchemann que depuis que j'en ai reparlé, moi, et que je l'ai fait mes trucs.
Oui, et quand vous dites « j'ai pris une mort aux dents pour construire » ou reconstruire sa routine au départ, en tout cas, c'est le cas de le dire, parce que ça n'a pas dû être ça.
Ah ben non, c'était pas de la tarte, non, c'est sûr. Donc, mais il faut bien se dire, je dis ça pour les pisse froids éventuels, ou les pas pisse froids, mais les candidats à la pisse froititude, que c'est pas par manque de potentiel ou de matériel magique que j'ai fait Gauchemann. J'ai fait Gauchemann pour qu'on parle de Gauchemann, qu'on continue de se rendre compte que ce qu'il a fait, ça reste très novateur.
Oui, absolument. Et donc, alors, autre référence, donc on a parlé de Ricky Jay, je vais plutôt parler d'un autre cartomane, Dai Vernon. Vous citez Dai Vernon comme de temps en temps. C'est vraiment quelqu'un qui vous a inspiré?
Non, mais
c'est clair.
Ah oui, non, non, c'est vrai, parce que il se trouve, encore une fois, Vernon fait partie, à la différence de Marlowe, des gens que je respecte énormément et qui m'ont apporté indirectement énormément. Mais
oui. Non, excusez-moi, je voulais justement parler de Marlowe, mais allez-y, parlons de
Dai. Oh ben, oui, moi, à chaque fois que je peux, je fais comprendre qu'à l'époque de Marlowe, quand il était vivant, ainsi que Vernon, ils étaient de joyeux ennemis comme on peut citer du Vivier un autre que, qui, tu vois, où on est de joyeux ennemis. Pour Vernon, je dis bien pour Vernon et les gens dans l'obédience de Vernon, c'est-à-dire David Salomon, Michael Weber, Percy Diaconis, Ricky Jay et j'en passe et d'autres, pour eux, Marlowe fait partie des plus grands voleurs de la planète. Parce que son truc, je suis forcé de dire à chaque fois qu'on parle de Marlowe, son truc c'était même pas forcément de la méchanceté ou un voleur, c'était pathologique. Ce que m'a dit David Salomon, un de ses meilleurs élèves encore vivant là, au jour où je te le parle, il avait sorti un bouquin quand je suis allé en faire une tournée dans les années 80, fin des années 90 en Amérique, David Salomon, il m'a dit, tu vois le bouquin là que je viens de sortir, si Marlowe était vivant, eh ben, il dirait que c'était de lui. Je l'apprends, je vous le dis, de la bouche de David Salomon, qui était un de ses meilleurs élèves. Et il dit même pas ça pour le charger, même si c'est une façon de le charger. Marlowe, son truc, c'était qu'il ne pouvait pas supporter, parce qu'il s'appelait, on l'appelait, The Cardician, tu vois, c'est-à-dire le créateur de la carte magique, quelque part. Mais il s'y croyait tellement l'être, qu'il ne pouvait pas supporter que quelqu'un d'autre trouve quelque chose. C'était pathologique. Je te répète, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens que je viens de te citer qui le disent. Moi, je ne fais que le dire tout haut, alors que personne n'ose parler de ça. Parce qu'il a tellement glané de choses de tout le monde que du coup, c'est un melting pot, sa créativité. Il a évidemment créé des choses. Il a fait des choses. Mais il en a pillé plein, parce qu'il allait dans des clubs, il allait dans des congrès, dans des machins, et comme tout le monde, on lui envoyait par courrier des tours et des trucs, parce que quand tu fais partie des grands, t'as toujours les autres qui veulent être approuvés par le maître. Hein.
C'est humain, c'est normal.
C'est humain, bien sûr. Mais ce que Marlowe faisait, c'est que dès qu'il voyait un truc qu'évidemment il n'avait pas trouvé, ah oui, ça je l'ai trouvé en 1934. On était, mettons, en 74, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Bah rien. Et puis il rentrait le soir et il écrivait l'article en signant 1934, alors qu'il venait de le voir d'un pauvre boutonneux qui venait de trouver ça la veille. Et il a fait ça sur plein de choses. Donc, il est évident qu'il a inventé beaucoup de choses, mais il est évident qu'il a consigné beaucoup de choses qui ne sont pas lui. Mais ce qui est surtout évident, c'est qu'il y a beaucoup de Marlowistes qui sont arrivés.
Ouais.
Et quand tu défends Marlowe, même si un jour tu apprends des choses comme ça, quand tu as encensé Marlowe, et il y en a plein qui l'ont encensé, tu ne peux plus faire machine arrière. Tu es forcé de dire que ce n'est pas vrai. Sauf que à l'époque de Marlowe, ben Vernon, il était fâché avec, parce que justement, c'était un voleur.
Et donc, alors, après cette parenthèse sur Marlowe, donc, Dai Vernon, qui est un magicien que vous respectez, ça,
oui.
Vous a pas directement inspiré?
Non, parce que c'est ce que j'ai commencé de dire. C'est comme la magie, j'en répète encore une fois, est un puits sans fond. Ben, j'ai été propulsé, c'est le mot, grâce à Freddy Fa, comme je le dis souvent, dans le monde des grands, cette fameuse soirée à l'hôtel Commodore, qui était la veille de la FISM qui a bouleversé ma vie en 1973, où ce soir-là, j'ai vu à la même table Fred Capps, Brother John Amann, Danny Ray, Freddy Fa, et Capps, alors que j'étais subjugué par ce qu'il faisait, m'a dit non, moi je suis nul, demain je vous présenterai quelqu'un, lui, il est bon en cartes. Et c'était Ricky Jay, il m'a effectivement présenté le lendemain Ricky Jay, Ricky Jay m'a présenté des règles d'Ingle. Et je voyais Gauchemann qui était dans le même congrès. Donc tu vois, d'un seul coup, il y avait tous ces gens-là que j'avais vus la veille, que j'ai vus pendant toute la semaine, Ça a bouleversé complètement ma vie. Il n'y avait pas Vernon ce jour-là,
ouais.
Tu vois.
Ouais.
Il était vivant, mais il n'était pas là.
Ouais.
Bah, j'ai vu ces gens-là, et il y avait tellement de grains à moudre, c'était tellement une révolution technologique, de mentalité, de style, de façon de faire, à tous les niveaux, quoi. Par rapport à notre façon à nous de faire avant de les voir, ces mecs-là, que j'ai eu assez de nourriture, largement plus qu'il m'en fallait, pour les 10 et 20 ans qui ont suivi.
Ouais.
Alors j'aurais pu apprendre aussi plein de tours de Vernon, d'ailleurs ce que je crois avoir fait, parce que je glanais des trucs, Freddy me montrait, parce qu'il connaissait Vernon, Freddy, donc il m'a montré des tours de Vernon, que j'ai pensé qui était de Vernon, mais qui était d'Henri Christ, etc., parce que moi je connaissais pas bien les noms, et eux non plus,
ouais.
D'ailleurs. Hein. Après on m'a reproché de pas donner les sources toujours des tours, moi j'aurais bien tendance à reprocher à ceux qui m'ont donné les sources de pas m'avoir donné les bonnes.
Oui.
Tu vois, parce que moi je les connaissais pas de toute façon, les ours. Tu vois ce que je veux dire. Donc oui, j'ai appris des tours de Vernon, par exemple les fameux As Gangsters de Vernon, qui après j'ai appris plus tard qu'il était d'Henri Christ. J'ai pas été dans la mouvance à mort de Vernon, mais j'y ai été indirectement, parce que Ricky Jay était dans la mouvance de Vernon, par contre.
Ouais. Mais c'est intéressant de citer ces noms-là. Vous voyez, Derek Dingle, vous citez Derek Dingle, par exemple. On n'entend plus beaucoup parler. Donc c'est intéressant quand même de citer ces noms qui ont participé à l'histoire de la magie, citons le mot, de la magie moderne, de la magie de close-up, d'une magie sensible. Pareil, Derek Dingle, c'est quelqu'un de très très important dans la cartomagie.
Oui.
Et vous l'avez invité au double fond.
Oui, 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 bien sûr, je l'ai fait travailler, ainsi que, je ne me rappelle plus de son nom à la minute, c'est, comment il s'appelle, le gros monsieur, je ne me rappelle même plus de son nom.
La grande barbe blanche, là.
Putain, c'est dingue.
Le nom va pas me revenir.
C'est, ça, c'est scandaleux. Que je ne me rappelle plus de son nom. Mais c'est pareil, lui, tu vois, le nom là, que j'ai oublié, c'est impardonnable de l'oublier, que j'ai invité aussi au Mayedez ainsi que Terry Dingle, qui est mort un an ou deux après. Mmh. Et Derek est mort 3-4 ans après. Hein. Et j'avais aussi invité Brother John Amann, Larry Jennings. Voilà. Larry Jennings, c'est une sommité qui était très très vernoniste, je sais pas comment on dit. Mais lui, c'est pareil. J'ai pas eu une grande influence de Larry Jennings, alors que j'aurais très bien pu passer ma vie avec Larry Jennings. Moi, c'est plus des gens comme Garcia et plein d'autres que j'oublie, mais tu me diras les noms, je te dirai ouais. Parce qu'il y a aussi les gens plus mineurs, mais qui étaient quand même des gens très importants. Mais encore une fois, j'ai travaillé sur une poignée de personnes que j'ai rencontrées et avec lesquelles j'ai passé un temps génial. Mais il y en a tellement que j'aurais très bien pu travailler, par exemple, avec Michael Skinner, qui était un énorme magicien.
Ouais.
Mais j'ai pas eu le loisir, vraiment. Je l'ai rencontré une fois, j'ai vu une conférence de lui, quelques trucs... Mais j'étais déjà dans d'autres mouvances, quoi.
Oui, oui. Et alors, dernière question pour ce numéro qui s'éteint un petit peu. En toute objectivité, du vivier est une référence.
C'est toi qui le dis.
Comment on fait du vivier? Comment est-ce que vous vous posez cette question de temps en temps? Est-ce que vous avez conscience que quelque part, il y a des magiciens professionnels, d'autres amateurs, on va dire éclairés pour les personnes qui se représentent devant un public et donc qui ont l'habitude de faire de la magie, mais dont c'est pas le métier, et puis aussi des amateurs de magie regardent la magie de Dominique Duvivier, et pour ces personnes-là, vous êtes une référence. Comment, Vous avez ça à l'esprit de temps en temps ou...
Non, franchement non. Franchement non, et je pense que vaut mieux que ça reste comme ça.
Ouais. Vous
Parce que si
dites
tu
pas
peux...
comment je vais faire pour faire du duvivier demain?
Ah non, 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 pas du tout. Non, vraiment pas.
Bien écoutez, moi j'ai été content de citer quelques noms, évidemment, vous l'avez dit, il y en a beaucoup plus, mais d'appuyer un petit peu ce numéro sur des noms de la magie, qui ont fait l'histoire de la magie et qui continuent d'être avec nous et de par leur héritage nous permettent de continuer le chemin qui reste encore à tracer. Eh bien.
Merci.
On tracera le chemin d'un nouveau numéro de Et si c'était vrai dans quelques temps, et bien pour l'instant on va se quitter. À bientôt Dominique.
À bientôt, Lionel.